autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur le groupe d'animaux le plus divers et le plus nombreux sur Terre. J'en perds presque ma voix, mais espérons qu'elle va tenir pendant toute l'émission. Il s'agit du groupe des coléoptères, scarabées, coccinelles, hannetons, bousiers, charançons ou capricornes. 400 000 espèces décrites à ce jour sur tous les continents émergés. De l'équateur jusqu'au cercle polaire, en passant par les déserts, les coléoptères sont partout. Ils s'adaptent et résistent à tout, même aux plus grandes extinctions, enfin jusqu'à présent, car elles sont eux aussi menacées. Pourquoi et comment faire connaissance avec quelques-uns des membres de la grande famille des coléoptères? Des plus petits scarabées d'à peine 1 mm jusqu'aux titans des Caraïbes qui dépassent les 10 cm en nous émerveillant au passage de leur métamorphose et de leur couleur, mais aussi de leur mœurs singulières et de leur rôle discret, parfois peu ragoûtant et pourtant essentiel à la vie sur Terre, en compagnie de nos invités, l'entomologiste Pierre-Olivier Macquart, spécialiste des capricornes africains, et le pharmacologue, botaniste et grand amateur d'insectes Denis Richard. Autour de la question pourquoi se pencher sur les coléoptères, c'est pas sorcier et c'est Fred Courant qui fait les présentations des plus beaux spécimens des collections.
Le scarabée sacré d'Égypte. Lui, en dessous, c'est le hanneton foulon. On le trouve notamment sur les côtes de l'Atlantique. Ah, lui, c'est le plus lourd des coléoptères, le Goliathus. Il vient du Cameroun. Lui, c'est le plus grand, le Titanus. Il vient de Guyane. Et lui, c'est celui qui a les plus grandes antennes. On le trouve dans les îles du Pacifique. Alors maintenant, dans les petits, ah oui, je vais vous en présenter un qui est très drôle. Regardez, le charançon girafe. Vous avez vu, avec sa petite tête là, tout au bout de son cou. Et alors, le plus petit des coléoptères, c'est lui, le petit point là, ça fait moins d'un demi millimètre. Et alors maintenant, mesdames, messieurs, le clou du spectacle, attention, le scarabée doré.
Waouh!
Bienvenue dans le monde extraordinaire des coléoptères. Un quart des animaux présents sur Terre. Bonjour Denis Richard.
Bonjour.
Bonjour Pierre-Olivier Macquart.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager la vie des coléoptères d'Europe. Ça, c'est le titre de ce très bel et très instructif ouvrage écrit à quatre mains, coédité par les éditions Delachaux et Niestlé et le musée des Confluences à Lyon. Ouvrage donc sur ces insectes à huit pattes et deux paires d'ailes, dont une paire d'ailes en étui, d'où leur nom coléoptère. On y viendra. Pierre-Olivier Macquart, vous êtes entomologiste, passionné par les insectes depuis votre plus jeune âge et plus spécialement par les coléoptères que vous traquez sur tous les continents. Notamment sur le continent africain, vous en avez décrit plusieurs espèces nouvelles, dont une que vous avez, je crois, dédiée à Nelson Mandela. Vous êtes, Pierre-Olivier Macquart, le spécialiste, on peut le dire, des capricornes africains. Dans le groupe déjà immense des coléoptères, c'est un des groupes d'insectes qui, à son tour, est parmi les plus diversifiés, c'est ça?
Oui, c'est en fait la famille la plus grande au sein des coléoptères, avec quasiment 25 000 espèces connues. On en connaît à peu près 9 à 10 000 sur le continent africain. Ce sont des insectes qui mangent du bois, ils sont xylophages. C'est le groupe le plus diversifié de par leur nombre, mais aussi par leur mode de vie et par les types de bois qu'ils vont coloniser. Chaque espèce va être spécialisée dans une essence d'arbre et très souvent va être spécialisée dans un stade de dégradation du bois. Ça peut être du bois qui va être encore vivant, du bois qui va être presque mort, du bois sec, du bois très sec. Chacun va utiliser une niche écologique assez spécifique, ce qui explique cette immense diversité.
Des capricornes, alors pourquoi ce nom capricorne? Parce qu'ils ont des cornes, hein, c'est
alors,
ça?
Alors, on les appelle capricornes, on les appelle aussi longicornes, parce qu'ils ont une paire d'antennes qui est souvent très longue. D'où ce nom, elle ressemble à des petites cornes, et d'où ce nom longicorne ou capricorne.
Denis Robert, alors vous êtes docteur en pharmacie, botaniste et chimiste et fondateur du Jardin des insectes, auteur de nombreux ouvrages scientifiques sur les plantes, les insectes, les plantes toxiques, les venins, les poisons, en collaboration d'ailleurs souvent avec des entomologistes. Cette fois-ci, c'est l'univers fabuleux, extraordinaire et surtout insoupçonné des coléoptères que vous nous faites découvrir. C'est vraiment un univers en soi. Qu'est-ce qui définit là l'énorme groupe des coléoptères?
Oui, alors les coléoptères sont des insectes.
Et à ce titre, il possède toutes les caractéristiques des insectes. Un corps divisé en trois segments, la tête, le thorax, l'abdomen, trois paires de pattes, donc six pattes, et deux paires d'ailes. Et c'est à ce niveau précisément qu'il se caractérise, puisque la première paire d'ailes, sauf exception, est fortement sclérifiée. Elle constitue un étui, d'où le nom de coléoptère, qui va protéger la seconde paire d'ailes, membraneuse, qui leur permettent de voler. Bien évidemment, comme toujours, il y a des exceptions. Certains coléoptères sont dépourvus d'ailes membraneuses, ou plus exactement, elles sont extrêmement atrophiées, ne peuvent voler. Chez d'autres, les élytres, donc cette première paire sclérifiée, ne protège pas intégralement les ailes membraneuses. Mais au total, on peut véritablement reconnaître que le modèle du coléoptère, c'est par exemple chez nous la coccinelle ou le hanneton. Et ces insectes ont colonisé tous les milieux sur la planète.
Ils sont partout, on les retrouve partout,
absolument
sur Terre,
partout,
hein, toutes les latitudes.
Exactement, voilà. À part, bien évidemment, les extrêmes zones polaires, mais vraiment extrêmes, hein, parce qu'ils descendent très très bas. Sur les îles circumpolaires, etc. Ils ont colonisé les milieux d'altitude et ils ont colonisé tous les milieux aquatiques d'eau douce. Et même, pour certains, le milieu du littoral maritime. Par contre, ce ne sont pas des animaux marins. Voilà,
donc on les retrouve dans les milieux immergés, mais partout, et jusque dans les déserts les plus arides.
Absolument, dans les déserts arides, les forêts, les prairies, partout.
Comment expliquer ce succès évolutif? Parce qu'ils sont apparus sur Terre il y a extrêmement longtemps, au moment, il y a quoi, entre 35 et 300 millions d'années, c'est ça?
Oui, enfin, plus près de, au niveau de l'ère primaire. Hein, donc il y a vraiment très longtemps. Oui, beaucoup plus que 35 millions d'années.
Hein. Beaucoup plus que 35 millions d'années.
Bien sûr, lorsque les dinosaures, pour prendre une figure un petit peu parlante, existaient, les coléoptères existaient déjà depuis très longtemps. Ce qui précisément leur a permis d'exploiter et de coloniser toutes les niches écologiques.
C'est ce qui explique leur diversité. C'est à la fois l'un et l'autre. C'est-à-dire que leur diversité leur a permis de survivre ou s'adapter à tous les milieux.
Exactement. C'est un groupe qui a évolué depuis très longtemps et qui a survécu à toutes les grandes extinctions de la faune. Voilà. Qui sait s'ils survivront. Par contre, à l'extinction actuelle des insectes, c'est un autre problème sur lequel, je pense, nous aurons peut-être l'occasion de revenir.
Oui, on va y revenir parce que c'est une vraie question. Hein,
c'est une vraie question, effectivement, qui nous préoccupe beaucoup.
D'autant que leur rôle est complètement essentiel. Il est souvent ignoré, mais il est essentiel dans le maintien des équilibres écologiques. Ce sont quoi ? Ce sont
le rôle des coléoptères, mais celui des insectes et évidemment d'un grand nombre d'animaux. Mais enfin, les coléoptères ont des rôles fondamentaux en tant que recycleurs de la matière organique. Hein, par exemple, qu'il s'agisse des déjections des animaux, des cadavres, des débris, des végétaux en décomposition. Beaucoup d'espèces ont un rôle dans la pollinisation également. On évoque toujours les abeilles, qui ne sont pas des coléoptères, etc. Mais les coléoptères ont un rôle important. Et puis aussi, ils constituent une ressource de nourriture pour un bon nombre d'autres animaux. Et puis, un bon nombre d'espèces également ont un rôle de prédateur et d'auxiliaire, du jardinier par exemple, qui explique leur importance primordiale dans tous les écosystèmes.
Importance primordiale de ces coléoptères autour de la question pourquoi s'intéresser à eux et pourquoi s'intéresser au plus mal aimé d'entre eux, pourquoi s'intéresser aux bousiers. Question pratique tout de suite, soulevée par la primatologue Sabrina Krief, qui était récemment notre invitée et qui s'apprête à repartir en Ouganda, dans le parc de Kibale, retrouver la communauté de chimpanzés qu'elle suit depuis plus de 10 ans. Écoutez sa question, très terre à terre et pour vous.
Alors moi, je travaille sur les chimpanzés et donc je développe une crototèque, une collection de crottes de chimpanzés. Et je suis souvent en compétition avec les bousiers. Et je me demandais s'il y avait, pour les bousiers, une spécificité en fonction des espèces qui produisent les crottes. Est-ce qu'un bousier qui s'intéresse aux crottes de chimpanzés va aussi s'intéresser aux crottins d'éléphants, par exemple ?
Votre réponse, Denis Richard.
Oui, alors effectivement, les bousiers forment un groupe de coléoptères qui s'intéressent de très près aux déjections animales, puisque leurs larves s'en nourrissent. Et dans un certain nombre d'espèces, les adultes aussi. Plus ou moins, on ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que leur rapport étroit avec les déjections s'accompagne d'une spécialisation plus ou moins importante selon les espèces. Certains préféreront des déjections plutôt fibreuses, donc avec beaucoup de débris végétaux, d'autres déjections moins fibreuses, plus souples, etc. Il y a véritablement une compétition entre toutes ces espèces pour exploiter l'ensemble des types de, d'éjections.
On les appelle des coprophages et ce sont vraiment eux qui nettoient l'environnement.
Ils nettoient, oui, absolument, et c'est tout à fait important. Alors, cette spécialisation plus ou moins marquée, hein, selon les espèces, porte donc sur des types de déjections, donc par la même varie selon le régime alimentaire de l'animal qui émet les déjections, c'est une chose. Elle peut aussi varier selon les saisons. Ainsi, en France, certains coprophages vont s'intéresser aux déjections produites par des ruminants à telle saison, d'autres aux déjections produites par ces mêmes ruminants, mais à telle autre saison. Donc, il y a véritablement aussi une succession chronologique.
Ah, il y a vraiment une hyper spécialisation.
Voilà. Hein. Et au total, ce qui est vraiment très important, c'est de souligner l'extraordinaire rôle de ces insectes dans l'élimination des déjections. À telle enseigne qu'en Australie, il a fallu introduire des coprophages venant d'Europe, venant des îles Hawaï et venant d'Afrique, selon leurs espèces, pour se débarrasser des déjections émises par les ruminants, par le bétail, qui avaient été amenés en Australie par les colons. Vous allez me dire, l'Australie, pourtant, elle connaissait d'autres animaux herbivores, les kangourous, par exemple, qui émettent également des déjections. Mais la faune des coprophages d'Australie n'était pas adaptée à l'élimination des bouses des ruminants. Donc, ce qui fait qu'elle s'accumulait et brûlait l'herbe à tel point que les pâtures ne pouvaient pas être utilisées pour le bétail.
Donc,
on a dû faire venir... élever, ça a été un processus très complexe, des coprophages d'autres pays, les tester, les introduire en Australie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a été véritablement difficile puisque ces espèces ont dû être élevées pour que l'on élimine les parasites qu'elles pouvaient porter de manière à ce qu'ils ne contaminent pas la faune des coprophages propre à l'Australie, vous voyez.
Ah oui, c'est compliqué. Comme quoi, tout est véritablement un équilibre, un écosystème où tout est fondamental.
Exactement.
Et ces bousiers qui sont au ras du sol sont absolument essentiels.
Voilà, et cette espèce de greffe écologique a pris, pas pour toutes les espèces, mais certaines, donc depuis les années 1960 à peu près, pour faire bref, se sont bien implantées et ont largement colonisé des régions entières d'Australie où elles jouent parfaitement leur rôle.
Ces coléoptères coprophages, on les appelle toujours des bousiers ou il y a d'autres coléoptères qui peuvent aussi être coprophages? Est-ce qu'il y a des bousiers qui sont parfois prédateurs ou ont d'autres...
Non, ce que l'on appelle les bousiers compte parmi les coléoptères coprophages. Alors, il y a des coprophages qui ne sont pas à proprement parler des bousiers. Le terme de bousier est un nom commun,
générique,
un nom populaire utilisé en France, mais qui ne vaut pas dans cette même acception partout, bien évidemment. Le terme de coprophage est beaucoup plus précis pour l'entomologiste.
Alors, on voit que dans cette énorme famille des coléoptères, Pierre-Olivier Macquart, il y a donc des coprophages, il y a des nécrophages, il y en a ceux qui aiment le bois, puisque c'est... comment ça s'appelle ça, quand on aime le bois, ce sont des...
Xylophages.
Des xylophages. Il y a aussi des prédateurs. Comment expliquer une telle diversité, à la fois dans les formes, dans les manières de vie, dans les manières de se nourrir, de s'alimenter de ces insectes?
Bien, comme on a dit précédemment, en fait, ils ont eu le temps de se diversifier. Ils sont apparus il y a très longtemps. Donc, ils ont pu vraiment conquérir tous les milieux. Donc, pour ça, ils ont pu se... spécialisés afin d'attaquer toutes les niches écologiques présentes et prendre possession de ce monde-là.
Et alors, dans les manières de faire ou de s'alimenter, donc on l'a dit, certains aiment le bois, d'autres sont coprophages, d'autres nécrophores, on va y venir, se nourrissent, c'est ça ?
Nécrophages,
pardon. Ils se nourrissent de cadavres. Mais en tout cas, pour en revenir à nos bousiers coprophores qui me plaisent bien, il y a aussi plein de manières d'être coprophore. C'est-à-dire que d'être coprophage, je vais y arriver, absolument, donc de se nourrir.
Mais coprophores aussi pour certains, précisément, qui vont porter les déjections.
Voilà, c'est ça, là où je veux en venir, les bousiers, ils roulent. Les
porcs, le scarabée sacré, pour prendre l'une des figures emblématiques de ce coléoptère, fait une pilule, une boule, avec les éjections qu'il va rouler à quelques distances de l'excrément et qu'il va enterrer. Alors, nous ne rentrerons pas ici dans les travaux qui ont montré la complexité de ces mœurs, mais l'idée globale est... pour ce type de coprophage, de s'éloigner le plus rapidement des excréments pour éviter la concurrence d'autres espèces.
Ah, que les autres ne la trouvent pas, de le planquer, en fait, de l'enfouir. Hein.
Voilà, de l'enfouir, de le planquer, et de pondre dedans pour que les larves se développent précisément dans cette masse excrémentielle. Relativement protégée, ou très protégée, c'est d'autant plus important que souvent, la femelle a une fécondité très faible chez ces espèces. Donc, elle compense cette fécondité réduite par une protection, par un soin aux larves, qu'elle assure plus ou moins longtemps, de façon plus ou moins importante, et parfois en association avec le mâle. C'est très complexe, mais c'est très important parce que c'est un comportement étonnamment sophistiqué pour des insectes.
Et oui, pour des petits insectes qui sont magnifiques. Quand on parle des scarabées sacrés, les couleurs sont extraordinaires aussi.
Enfin, le scarabée sacré, à proprement parler, lui, il est noir.
Mais d'autres scarabées
mais
ont
d'autres
des couleurs.
Scarabées ont des couleurs tout à fait extraordinaires, absolument.
Tous les goûts sont dans la nature des bousiers, mais comment s'y retrouvent-ils, comment s'orientent-ils et comment communiquent-ils? Puisque vous l'avez dit, ils ont quand même des comportements assez sophistiqués. Explication d'un biologiste et youtubeur de science sur son blog Dirty Biology, Léo Grasset.
Quand il n'y a plus d'étoiles et qu'il y a peu d'autres que la Voie lactée, il utilise la Voie lactée pour rentrer au terrier. Sinon, dès qu'il y a la Lune, il peut utiliser la Lune. Mais il arrive à détecter en fait la faible lueur de la Voie lactée pour rentrer au terrier.
Mais comment en poussant sa boule de merde, comme ça que ça s'appelle. Mais comment il fait le bousier?
Mais il a des yeux, et il a une sensibilité très très forte en fait pour détecter la bande blanche de la Voie lactée.
Et comment les chercheurs ont découvert ça?
Ah, ça c'est rigolo, c'est des chercheurs sud-africains et je crois suédois, donc une équipe qui vient des Antipodes, et ils ont testé en nature, en savane, ils ont pris un bousier. Ils ont fait un espèce de petit cercle et ils ont regardé comment, selon les conditions environnementales, donc selon l'état du ciel, comment se dirigeait le bousier. Puis ils ont mis un petit casque sur la tête.
Et du coup, petit casque sur la tête du bousier qui pousse sa petite boule, mesure, oui. Voilà.
Et du coup, ils ne pouvaient plus rien voir le bousier et ils se sont rendus compte qu'il poussait dans tous les sens, il partait dans toutes les directions. Il ne partait plus en ligne droite. Et ensuite, ils ont répété l'expérience en planétarium. Donc cette fois, ils pouvaient contrôler exactement les étoiles qu'ils voulaient allumer. Et là, ils se sont rendus compte que oui, ils pouvaient utiliser certaines étoiles. Et surtout, ils pouvaient utiliser la Voie lactée quand il n'y avait plus rien d'autre.
Fascinant bouvier, Pierre-Olivier Macquart, capable de s'orienter juste avec la Voie lactée, même par une nuit sans lune et sans
exactement.
Étoiles.
Exactement. En fait, face à une bouse qui est une ressource éphémère, on va avoir trois stratégies principales, voire quatre à la rigueur. La première, qui est la plus rare, qui est faite par quelques bousiers sud-américains, ça va être de rester dans le pelage du mammifère et de rester juste à côté de l'orifice anal et d'attendre que ça tombe. Donc eux, ils vont
avoir tout de suite tout près, oui.
Au plus près de la source.
Oui.
Autrement, les stratégies les plus utilisées, en fait, on en a trois. La première, soit les bousiers vont aller directement dans la bouse, donc ils vont aller faire leur cycle à l'intérieur de la bouse. Très souvent, ils vont avoir un cycle de vie assez court, parce que c'est une ressource éphémère. Soit ils vont creuser directement sous la bouse, donc ils vont aller enfouir la matière fécale dans le sol, ils vont aller faire une petite crypte avec leurs larves, comme on a dit précédemment, soit ils vont prendre une partie de cette bouse, faire une petite boule et du coup la rouler le plus loin possible. Donc ça peut être sur quelques mètres, ça peut être sur quelques dizaines de mètres. Fabre avait très bien documenté ça en son époque.
Jean-Henri Fabre, grand naturaliste.
Il avait documenté ça et il s'était étonné du fait que le bousier, quand il roule sa bouse, file dans une direction absolument droite, comme s'il savait exactement où est-ce qu'il allait. Et quand on essaie de le déplacer, quand on met un obstacle sur son chemin, il le force et il va essayer. Et
oui, donc
il est vraiment obstiné.
Il s'oriente vraiment.
Donc, Léo Grasset mentionne cette expérience qui a été faite par des Sud-Africains qui était assez rigolo à lire, effectivement, où pour les bousiers rouleurs de pilules nocturnes, il leur avait mis
une sorte de casque.
Des espèces de petites casquettes sur la tête afin de vérifier si oui ou non ils s'orientaient avec les étoiles. Et effectivement, quand on leur met une petite casquette, quand on les empêche de voir le ciel, ils ne savent plus où aller. Donc, ils se repèrent grâce à la Voie lactée, ce qui est assez poétique, un petit peu grâce à la Lune ou autrement grâce au Soleil quand ils sont diurne.
Qu'est-ce qui vous étonne le plus chez ces insectes que vous ne cessez d'étudier? C'est quoi? C'est leur autre moyen de communiquer, de vivre, de se nourrir? Enfin, c'est une autre manière? Ou c'est l'ingéniosité? Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais...
Personnellement, ce qui me fascine le plus dans ce monde-là, c'est le fait que ce soit tellement diversifié qu'absolument tout existe. Et qu'en fait, si on n'a pas encore trouvé une espèce qui faisait tel système, c'est juste qu'on ne l'a pas trouvé, parce que probablement que ça existe en fait. C'est vraiment un monde à part entière, un monde absolument abyssal, un monde dont on ne sait presque rien en fait. On en a effleuré la surface depuis les 200, 300 ans qu'on les étudie scientifiquement bien. Il reste absolument tout à découvrir. Quand j'étais plus jeune, un de mes rêves, c'était de décrire une espèce nouvelle pour la science. Ça, c'était vraiment le Saint Graal. Et en fait, au final, quand j'ai commencé à en trouver, bon, c'est chouette, mais on se rend vite compte qu'en fait, c'est pas très dur à faire et qu'il suffit
de
d'aller
découvrir,
chercher...
entre guillemets, enfin, de décrire de nouvelles espèces
voilà.
d'insectes.
En fait, il suffit d'aller chercher dans un coin qui n'a pas été extrêmement prospecté ou, beaucoup plus trivialement, d'aller étudier un groupe d'insectes qui n'a pas été étudié avant, et on se rend compte du vide abyssal des connaissances autour de ça, et on se rend compte qu'il y a absolument tout à faire. Alors, ce qui est d'un certain côté jouissif, parce qu'on peut trouver plein de choses, mais qui est aussi très triste, parce qu'on garde en tête qu'énormément d'espèces disparaîtront avant même qu'on puisse les trouver. On
ça
avait mentionné précédemment
disparition.
Une espèce que j'avais décrite d'Afrique du Sud en 2015, que nous avions dédiée à Nelson Mandela. Capederces madibai.
Madibai,
enfin, on l'avait dédié du coup à Madiba. Cette espèce-là a été décrite sur la base de 6 spécimens qui ont été trouvés entre 1924 et 1926. J'ai eu accès à la majorité des grandes collections sud-africaines, à la majorité des grandes collections d'Afrique australe, même au sens plus large, et même par le biais de contacts en Afrique du Sud, nous n'avons jamais retrouvé cette espèce-là capturée depuis cette époque-là. Donc, on ne sait même pas, en fait, si cette espèce qui est...
Tout juste découverte n'a pas déjà disparu.
Tout juste découverte est encore présente ou non.
Sacré bousier autour de la question. Pourquoi s'intéresser aux coléoptères? Parce que c'est urgent. Réponse tout de suite d'Archie Lipton sur RFI. Un morceau qui devrait vous plaire et qui s'appelle « Coléoptères solidaires ».
Nos tâches à nous les bousiers, c'est de nettoyer les champs. En hiver comme au printemps, des grottes on en fait des boulets. D'habitude c'est pas méchant, c'est juste que ça prend du temps. Oui, mais depuis quelque temps, notre travail a changé. Est devenue cette corvée qui fait qu'à chaque instant nous sommes surchargés. Le poids de nos fêtes nous fait crever. Oh, unissons nos voix de tout petit contre-là. Là de repartir en arrière, mettons-y tout notre poids, ça ne passera pas. Construire des barrières. Qu'on donc toute la pelote à sentir si mauvais. Qu'est-ce que les vaches ont mangé? Y a-t-il un antidote à ces poisons des marais? Ces pesticides modifiés. Si le monde n'est plus qu'un gros amas de fumier, unissons nos coléoptères et mettons-nous en boule la mandibule levée. Bousier de tout pays en colère. Ouais, 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 ouais.
Coléoptère solidaire, eh oui, ça ne vous surprend pas, messieurs les entomologistes. Archie Lipton sur RFI, de circonstances autour de la question pourquoi se pencher sur les coléoptères, le plus grand groupe d'animaux vivants sur Terre. On continue de les découvrir en compagnie de nos invités, l'entomologiste Pierre-Olivier Macquart, spécialiste des capricornes africains, et le pharmacologiste, biologiste et toxicologue Denis Richard. Tous deux viennent de publier La vie des coléoptères d'Europe aux éditions de Lachaud et Niestlé. Nous sommes loin d'être au bout de nos surprises avec les coléoptères nécrophages qui se nourrissent de cadavres, ce qui ne les empêche pas d'être de bons parents. Comme nous l'expliquait ici même le journaliste et écrivain Homéric dans un joli ouvrage intitulé « D'autres vies que les nôtres » où il partageait sa fascination pour les petits nécrophores aux ailes colorées.
Je me suis intéressé à ces bêtes parce qu'en voyant une carcasse de taupe, je la voyais bouger sur le sol. Elle était morte, elle avait déjà été mangée par beaucoup d'arthropodes qui nettoient les animaux morts. Je l'ai soulevée et là, j'ai vu deux couples de nécrophores. Et je me suis un petit peu renseigné donc, dans la littérature. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils viennent de très loin, attirés par cette odeur nauséabonde, par la sanie de l'animal. Et un autre couple vient les aider à enterrer cette carcasse. Cette carcasse les intéresse parce qu'ils vont pouvoir faire leur petit dessus. Mais ce qui est très étonnant d'un point de vue communautaire, c'est que le premier couple arrivé sur cette carcasse, c'est eux qui vont bénéficier. Les autres, ils creusent en dessous, ils coupent avec leurs instruments, leurs mandibules, les herbes, ils poussent la terre, ils se mettent sur le dos. Le poids de la carcasse fait qu'elle est enterrée. Ils la recouvrent après de terre. Le couple qui a aidé s'envole vers d'autres tâches. Le premier qui était là va pouvoir copuler, faire des œufs sur cette sanie. Les parents restent aux alentours pour pouvoir nourrir les œufs quand ils vont éclore et les nourrir avec ce brouet un peu rebutant. Et ensuite, les larves vont pouvoir s'enfoncer encore plus profondément au sol pour faire leur nymphose.
Étonnante collaboration, Pierre-Olivier Macquart, entre deux couples de coléoptères, c'est ça?
Oui, et ils ont un mode de vie assez fascinant parce que face à des cadavres qu'ils vont trouver, ils peuvent être attirés parfois à des distances supérieures à 4 km.
Ils sentent à plus de 4 km l'odeur du cadavre.
Les composés soufrés qui s'en dégagent. Alors, un petit peu comme chez les bousiers, ici, chaque espèce de nécrophore sera plus ou moins spécialisée dans un type de cadavre. Une fois qu'ils les repèrent, bon, pour les plus grands nécrophores, c'est un groupe assez diversifié. Ils vont enterrer le cadavre quand il est assez petit. Quand il est trop gros, ils vont le dilacérer, le découper en plus petits morceaux, creuser un terrier. Donc, il faut qu'il y ait un sol assez meuble. Quand c'est un sol trop dur, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils vont creuser une crypte qui va être à 10, 20, 30 cm de profondeur. Ils vont faire une petite cavité. Ils vont débarrasser le cadavre des poils, des ongles, des larves d'insectes qui s'y seraient développées, tout ce qui peut être un concurrent potentiel. Ils vont faire une espèce de masse qu'on appelle une nécromasse, qui va être une boule de chair en putréfaction, qu'ils vont recouvrir d'un mucus antibiotique pour éviter justement que les bactéries dégradent de trop cette masse.
Et ça va servir de nourriture pour leurs larves.
À leurs petits. Et ils vont en prendre soin parce qu'ils vont faire relativement peu de petits. Ils vont pondre assez peu d'œufs. Donc, ils vont devoir investir dans un soin parental élevé.
Et c'est toujours à deux, ça. Ça se toujours fait avec à deux. Le père et la mère.
Toujours en couple, exactement. Et face
et
à ça...
parfois aidé d'un autre couple.
Parfois aidé par... un autre couple. Et la femelle va pondre ses œufs dans les murs de la crypte. Une fois que les œufs vont éclore, ils vont attirer les larves en stridulant pour qu'elles viennent vers eux. Ils vont s'occuper des larves, donc ils vont les nourrir pendant à peu près une semaine. Au bout d'environ une semaine, les larves deviennent assez âgées pour se nourrir seules. Les adultes restent dans la crypte avec les larves. En fonction du nombre de larves, si jamais la femelle voit que la nécromasse est suffisamment importante, elle va pondre d'autres œufs pour avoir d'autres larves. Donc on va avoir des larves de stades différents
sur la même
alimentation. Exactement.
Et en fait, ils sont donc toujours à deux. Donc le mâle et la femelle, ils restent ensemble.
Ils restent ensemble, ils nourrissent les larves, ils s'en occupent.
Ce sont des couples d'insectes. Étonnant pour des tout petits êtres qu'on n'imagine pas aussi sophistiqués.
Exactement, mais comme ils vont pondre peu d'œufs, il faut qu'ils aient un soin parental élevé, en fait. Autrement, il y a une autre stratégie qui est utilisée par d'autres insectes, qui consiste à pondre plein d'œufs, faire plein de larves et...
Et espérer qu'il y en ait qui s'en sortent.
Des petits.
Mais là, pour ces nécrophores ou ces qui se nourrissent de cadavres, ça nous paraît absolument dégoûtant. Mais c'est véritablement une manière de prendre soin de ces enfants.
Une ressource extrêmement riche. Oui, c'est.
Et c'est aussi nettoyer. De exactement, même, c'est aussi nettoyer
c'est
le
essentiel.
Sol.
C'est essentiel. Ils enterrent les cadavres.
Et du coup, quand vous dites qu'ils sont à chaque fois spécialisés sur certains cadavres, ça dépend de leur taille. Parce que dans ces insectes coléoptères, il y a des insectes très gros, il y en a des beaucoup plus petits. Donc, en fonction de leur taille, ils s'adaptent à certains
types
de
proies. Ils ont des goûts plus ou moins prononcés envers un type de charogne. Ou... Chaque espèce va avoir un optimum alimentaire et va tendre à...
Donc spécialisés comme nourrir. Toujours, donc là on a parlé de leur mœurs qui nous semble pas très ragoûtante, mais ce sont des insectes et c'est comme ça qu'ils vivent. Il y en a d'autres qui nous inspirent beaucoup plus. Parmi les coléoptères sont les scarabées qu'on a déjà évoqués, notamment pour leur couleur irisée. Alors à quoi ça leur sert? Est-ce que ça leur sert à communiquer, à se séduire? C'est le sens de la question soulevée par le grand historien des couleurs, Michel Pastoureau. Écoutez, c'est pour vous.
Les couleurs jouent un rôle important chez les oiseaux, mais aussi chez de nombreux insectes, pour exprimer un certain nombre d'émotions, de comportements, peut-être pour communiquer, pour séduire, pour alerter. Je n'en sais pas plus, je serai incapable de donner des détails, mais cela m'intéresse beaucoup, hein, la couleur comme signal, la couleur comme expression des émotions, des peurs, ou au contraire des joies. J'aimerais bien sûr en savoir plus. Je lis un certain nombre de travaux dans ce domaine, mais ils sont un peu contradictoires. Enfin, j'ai l'impression que notre savoir n'est pas encore très assuré dans ce domaine.
Denis Richard, est-ce que vous avez des pistes sur le pourquoi ou le comment des couleurs magnifiques, notamment des scarabées?
Alors, les coléoptères sont colorés, ou non, hein, certains sont noirs, et la couleur n'est pas du tout l'apanage du groupe des scarabées. Des scarabées qui représentent une famille qu'on appelle dans notre jargon les scarabéidés, hein, de très 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 nombreux autres coléoptères présentent des couleurs tout à fait singulières.
D'accord.
Il y a deux grands types, pour faire simple, de coloration. Certains ont des couleurs pigmentaires, donc des substances colorées, qui sont parfois issues de leur alimentation, il y a un métabolisme qui proviennent des végétaux, d'autres fois non, bref, c'est un petit peu complexe. Et d'autres ont des couleurs qui sont dites physiques, qui proviennent de jeux de la lumière au travers de différentes couches de la fameuse carapace qui constitue leurs élytres. Voilà, ce sont deux aspects, deux types de coloration. Et pour faire simple, vous évoquiez des coléoptères aux couleurs irisées. Mmh. Ceux qui ont des couleurs métalliques irisées font partie du second type.
D'accord, qui nous font penser à des bijoux, véritablement.
Voilà, font penser à des bijoux. D'ailleurs, il n'est qu'à se souvenir du célèbre petit roman d'Edgar Poe, Le Scarabée d'or. Effectivement, certains coléoptères évoquent véritablement des bijoux. Alors l'autre question que l'on peut se poser, c'est précisément à quoi sert cette coloration. C'est un plaisir en soi, bien évidemment,
absolument.
Mais ça, c'est une interprétation de l'homme. Hein. Les coléoptères étaient colorés bien avant que l'homme n'existe sur la Terre pour les admirer.
Est-ce qu'eux, ils apprécient les couleurs ou pas?
Et leur poésie est totalement indépendante du regard que nous pouvons porter dessus. Voilà. Alors, cette coloration a beaucoup, beaucoup de rôles. Dans certains cas, elle leur permet de se camoufler dans leur milieu. C'est un aspect extrêmement important.
Il y a quelques
important.
Images très étonnantes d'insectes qui ressemblent à une feuille.
Il y a la coloration, il peut y avoir l'aspect même, la sculpture des élytres, etc. Il faut savoir que certains coléoptères vont même bien plus loin dans le camouflage, puisqu'ils hébergent en quelque sorte toute une forme de vie sur leurs élytres, qui peut être colonisée par des petits lichens, etc., qui donnent véritablement l'impression d'un micro-monde sur six pattes. Ce qui leur permet de se camoufler sur les écorces, etc.
Très impressionnant.
Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Dans d'autres cas, la coloration va permettre d'avertir d'éventuels prédateurs, c'est-à-dire des animaux qui voudraient s'en nourrir, qu'ils sont toxiques. Ça, c'est quelque chose d'assez répandu dans le monde animal. Un coléoptère rouge, comme par exemple la fameuse coccinelle, c'est une coloration précisément qui sert à avertir de la toxicité. Puis alors ensuite, vous avez une seconde couche, en quelque sorte, si je puis me permettre. Ce sont des coléoptères qui ne sont pas toxiques, mais qui vont imiter par leur coloration ceux qui sont toxiques.
Qui vont faire croire à leurs prédateurs qu'ils sont toxiques.
Or là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre aux coléoptères dans l'évolution. Mais c'est quelque chose de tout à fait remarquable.
C'est un peu ce que vous disiez, qu'on a l'impression qu'ils ont pu tout essayer, les coléoptères. Enfin, ils n'ont pas décidé de tout essayer,
c'est
l'évolution.
La vie, d'une façon générale, a tout essayé. Et les coléoptères, avec 450 000 espèces à peu près décrites, peut-être 1 million d'espèces existantes, ont forcément, sur son nombre, multiplié par la durée de leur évolution. Vous imaginez le nombre d'espèces qui ont disparu depuis qu'ils sont apparus, tout ce qui a pu être tenté, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, etc. Véritablement, toutes les combinaisons ont pu être essayées sur des modèle que l'on retrouve chez d'autres insectes et chez de nombreux autres types d'animaux.
Et oui, parce que là, on a parlé des coléoptères donc, qui sont des enfouisseurs ou qui se nourrissent de cadavres ou qui se nourrissent de déchets. Mais il y a aussi ceux qui sont eux-mêmes des prédateurs. Ça existe et qui sont toxiques aussi. Il y en a beaucoup.
Tout à fait. Alors, ceux qui sont toxiques sont surtout des coléoptères qui seraient les victimes de prédateurs eux-mêmes, qui vivent exposés, par exemple, à la surface des végétaux, ou autres, etc., qui produisent donc des substances toxiques. Alors là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais soit ils les produisent eux-mêmes, soit ils utilisent et détournent les substances toxiques qu'ils trouvent eux-mêmes dans la nature, en particulier dans les végétaux dont ils se nourrissent, et qu'ils séquestrent ainsi dans leur organisme.
Ah oui, pour se défendre chimiquement face aux prédateurs.
Mais là aussi, ce n'est pas le propre des coléoptères, bien évidemment.
Autour de la question de la vie et des mœurs des coléoptères, le groupe animal, on le rappelle, le plus nombreux et le plus divers de la planète, on continue de s'interroger avec Baz sur RFI, les insectes en général.
Je suis une idée de fourmi. Je suis une idée d'être en vie. Je suis une virée de scarabée. Une petite virée en toute liberté. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. En prison, je suis une pensée coccinelle, une petite pensée, rien que pour elle, et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Oh, et même si j'ai tort, je crache sur la mort.
Insectes de Camille Baz sur RFI.
Autour de la question des coléoptères qui nous occupe aujourd'hui et pour cause, c'est le groupe animal le plus nombreux et le plus divers de la planète. Et nous sommes loin de comprendre tout leur mode de vie. On a du mal à se mettre dans la tête d'un scarabée, ça c'est sûr. Est-ce qu'on comprend pourquoi et comment ils sont les pionniers de l'éclairage durable? Je propose un dernier éclairage, c'est celui d'un entomologiste avec lequel vous avez travaillé tous les deux, notamment vous, Denis Richard, Vincent Albouy, qui nous éclaire sur l'éclairage des lucioles et autres vers luisants.
Les lucioles ont un système d'éclairage. Alors c'est pareil, c'est du recyclage de déchets organiques qui ne savent pas trop quoi en faire. Ils en font de la lumière. Et c'est une lumière qui a un taux de productivité énorme, puisque les meilleurs délais ont 30% de productivité, et la lumière froide, puisqu'elle dégage très peu de chaleur de ces insectes, est autour de 80%, si ma mémoire est bonne. Donc on a vraiment une efficacité énergétique largement supérieure à nos meilleurs délais, sachant que la vieille ampoule à incandescence était 5% d'efficacité lumineuse. Hein.
Et donc elles sont bien plus fortes, les lucioles.
Bien plus fortes. Et alors, on est fiers maintenant de mettre des ampoules à LED dans nos culots de lampes de chevet ou autres, mais il faut savoir que dès le XVIIe siècle, il y avait des prêtres des Antilles qui mettaient, alors c'était pas des vers luisants, c'est une autre espèce lumineuse, c'est des taupins, des pyrophores, qui mettaient ces taupins lumineux dans des petites lanternes grillagées, et ça leur permettait de lire la messe, de lire la Bible pendant la messe, y compris par nuit très noire.
Grâce à ces insectes.
Grâce à ces insectes. Donc vous voyez que l'attitude de 100% énergie renouvelable, etc., elle remonte aussi à quelques siècles avant.
Les insectes, en général, les coléoptères en particulier, nous montreraient des pistes pour une énergie renouvelable. Vous voulez réagir à cet éclairage, c'est le cas de le dire, Pierre-Olivier Macquart.
Ça donne des pistes assez prometteuses. Les émissions de lumière froide, c'est quelque chose qu'on connaît chez à peu près 2500 espèces qui sont liées à une activité enzymatique de la luciférase sur la luciférine. C'est un processus extrêmement efficace. Des vers luisants, on en a à peu près 60 espèces en France. C'est quelque chose qu'on peut observer dehors chez nous durant l'été, hein, durant les...
Et on pourrait s'en inspirer, on pourrait s'en inspirer pour...
potentiellement, pourquoi pas, oui. Il faut savoir que, par exemple, le clonage de la séquence qui sert à coder la...
Cette enzyme...
luciférase, a été fait en 1985 et sert à l'heure actuelle en biotechnologie afin de mettre en évidence des séquences génétiques, par exemple, quand on fait des PCR ou autre. Donc, il y a vraiment énormément d'applications technologiques et mécaniques qu'on peut prendre, enfin, dont on peut s'inspirer, en tout cas.
Du côté des insectes et des coléoptères, vous, je sais, Pierre-Olivier Macquart, que vous vous êtes plus qu'intéressé, hein, c'est au Ghana, vous avez soutenu un projet Entoprise en élevant une mouche particulière, hein, la Black Soldier Fly,
oui,
pour faire de la nourriture pour les animaux, pas pour les humains, pour
c'est
les animaux,
ça, oui.
Et en même temps pour lutter, dégrader les déchets domestiques,
j'ai fait...
c'est ça.
Ma thèse de doctorat sur ce sujet-là. Donc, je suis parti au Ghana durant 2 ans où on a créé une usine qui servait à valoriser des déchets organiques qui n'étaient pas utilisés autrement. Donc, dans notre cas, c'était les restes de marché au Ghana, à Madina, à côté d'Accra. Il y avait un très grand marché où
il y avait des restes alimentaires,
on allait
très
collecter tout ce qui était vieux légumes, vieux fruits, ce qui n'était pas vendu et ce qui était en fait autrement laissé à pourrir sur place. Donc, ce qui crée des conséquences sanitaires et tout ça. Donc, on a utilisé cette mouche pour que ces larves dégradent ces déchets organiques. On récupérait cette larve qui est très riche en protéines. Les taux de protéines vont en gros de 45% jusqu'à 55% à peu près. Et cette larve était séchée, broyée, réduite en poudre et servait de source de protéines en aquaculture. Bon,
pour la nourriture
générale,
animale.
Ça peut servir en alimentation animale.
Et là, c'est vraiment un cercle fermé. On n'a pas trop le temps de revenir là-dessus, mais il y a des vidéos qu'on peut voir sur ce projet qui s'appelle Entoprise.
C'est
l'entreprise avec de l'entomologie.
C'est ça.
C'est en tout cas des pistes extraordinaires, peut-être pas pour nous nourrir, nous humains, mais pour
les
animaux.
En alimentation animale.
Voilà, et en élevant. On rappelle qu'on élève toujours ces insectes-là et qu'on ne les prélève pas dans la nature.
Un point supplémentaire, c'est que tout ce qui n'a pas été dégradé par les larves, ce qu'on appelle le FRAS, crée un compost extrêmement riche qui, en plus, a la propriété de repousser et les insectes et les champignons, ce qui évite d'avoir à utiliser des pesticides ainsi que des engrais inorganiques.
Une vraie boucle vertueuse avec ces insectes et ces coléoptères qui sont, on l'a évoqué, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est une réalité, Denis Richard, qui sont en voie d'extinction, qui sont sur le déclin, et on se rend compte que c'est une perte à tous les niveaux. C'est une perte pour la beauté, pour la nature, pour leur rôle dans les écosystèmes, pour ce qu'ils pourraient nous apporter. Comment faire pour qu'on s'intéresse un peu plus à ces animaux qui n'ont l'air de rien, qui peuplent la Terre, qui l'ont peuplée avant nous et qui la peupleront malgré tout, j'imagine, après nous.
Oui, absolument. C'est une question vive à l'heure actuelle qui préoccupe les biologistes en général, les entomologistes, bien sûr, en tant que spécialistes, les naturalistes aussi, les curieux de nature, que celle du déclin des insectes. Alors, ce déclin a des causes très nombreuses qui sont toutes liées à des activités humaines. Il faut être très clair, que l'on parle de l'imprégnation des milieux naturels par les insecticides, que l'on parle du réchauffement climatique, que l'on parle de la pollution lumineuse, que l'on parle des dépôts d'azote dans les sols, que l'on parle de l'acidification des milieux, tout cela, c'est l'homme. Donc, effectivement, il ne faut pas aller chercher des causes extérieures à nos activités. Et la protection de la faune, de la flore en général, passe par une modification radicale des comportements humains sur la planète. Modification radicale et modification rapide. Les bouleversements climatiques à l'heure actuelle ne peuvent que nous conforter dans cette idée. Il faut savoir que la perte de la biodiversité actuelle, qui constitue d'ores et déjà ce que certains spécialistes qualifient de 6e extinction massive mondiale, constituera, si elle se poursuit, sûrement vraiment l'une des plus grandes catastrophes à l'échelle planétaire qui soit.
Les coléoptères ont résisté aux précédentes. Résisteront-ils à cette 6e extinction? Voilà, on se revoit pour en parler, pour parler de sujets plus optimistes aussi. Ce sera votre retour du Cambodge, Pierre-Olivier Macquart. Je crois que vous partez pour étudier cette fois-ci et décrire des insectes porteurs de virus.
À l'Institut Pasteur, oui.
À l'Institut Pasteur, pour qu'on les comprenne mieux. Merci infiniment à tous les deux. Merci Denis Richard, merci Pierre-Olivier Macquart d'être venu jusque dans nos studios en direct sur RFI en ce 11 novembre. Je rappelle le titre du livre que vous publiez tous les deux, La vie des coléoptères. Coléoptères d'Europe, passionnant, richement illustré, édité chez Delachaux et Niesley, avec le musée des Confluences à Lyon qui a organisé cette année, avec votre collaboration, une magnifique exposition sur les coléoptères. Et vous revenez quand vous voulez pour nous en parler.
Merci.
Merci.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Plus Radio, sur le site RFI Savoir et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec une voix toute neuve, je l'espère aussi. Autour de la question, pourquoi faire le vide, en compagnie du physicien et philosophe Étienne Klein. Saut dans le vide donc demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.
D'ici les États-Unis.